RCF.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle. Les élections municipales approchent et oui, ce sera les 15 et 22 mars. Les Français seront invités à aller voter dans toutes les communes de France. Ils vont devoir choisir et élire leur maire et l'équipe municipale pour mener les combats locaux. Alors Grand Angle se joint à l'hebdomadaire Pèlerin pour évoquer l'engagement de ces élus et les enjeux territoriaux de ces élections. Alors avec moi pour en parler aujourd'hui, donc François-Xavier Maigre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le rédacteur en chef de Pèlerin et nous allons donc évoquer une grande série que vous menez autour des élections municipales. Et puis Pierre-Wolf Mandrou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, journaliste reporter à Pèlerin et vous avez traité particulièrement ces derniers mois les élections et puis tout ce qui se passe au niveau local. Avec nous peut-être tout à l'heure Christian Lebar et puis aussi un élu que nous retrouverons au cours de cette émission, un élu qui nous parlera de Villiers-le-Bel. Les élections municipales, croire à l'engagement des élus, on en parle aujourd'hui dans Grand Angle.
Grand Angle, proposé par Faustine Fayette.
Alors, à l'occasion des élections municipales, en général, les médias, les journaux, les radios, effectivement, c'est un sujet qu'on ne peut pas rater, qu'on traite. Et donc, Pèlerin, vous avez choisi de le traiter d'une certaine manière cette année. Donc, une série, 10 lieux. 10 enjeux. Alors, François-Xavier Maigre, vous pouvez peut-être nous expliquer un petit peu comment vous avez conçu cette série, comment vous avez sorti, choisi les villes et les enjeux autour des élections.
Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'on s'est mis autour d'une table et on a réfléchi comment notre magazine, qui a toujours mis les territoires au cœur de son projet éditorial, pouvait honorer ce grand rendez-vous de la vie citoyenne française. Et c'est vrai qu'on arrive après une séquence qui a été assez pénible pour le pays, avec la grogne des gilets jaunes. Il y a eu énormément de mouvements sociaux qui ont émaillé la vie quotidienne des Français ces derniers mois. Et on a constaté que finalement, les maires ont été souvent un peu l'ultime recours. Ils ont contribué à réinstaurer du lien dans la vie quotidienne des Français. Et alors que la classe politique et médiatique est souvent vilipendée et, on va dire, accuse un manque de confiance chez beaucoup de nos concitoyens, on constate aussi que le maire est peut-être le maillon de la vie citoyenne qui reste celui auquel on accorde le plus de confiance. Le maire, c'est l'élu de proximité par excellence et il a un rôle essentiel dans la vie quotidienne de nos concitoyens. Et on a eu envie d'aller à la rencontre des maires dans des villages, dans des grandes villes, dans des lieux très différents et de surtout de les rencontrer à travers leurs engagements, parce que les maires sont impliqués dans énormément de champs de la vie quotidienne. Mmh. Et on a choisi en fait de thématiser nos reportages en fonction des grandes problématiques qui touchent la vie des Français. Donc ça peut être aussi bien l'inclusion que la préservation des centres-villes, l'économie locale, le logement. Voilà, toutes ces problématiques qui sont essentielles et sur lesquelles le maire a une influence directe.
Est-ce que vous avez senti, je ne sais pas, mais est-ce que dans les courriers de lecteurs, il y avait des demandes particulières, ou c'est vous qui sentez un peu au fur et à mesure de l'année, et parce que vous connaissez votre lectorat, que c'était cette façon-là, c'était cette manière-là qui correspondait à Pèlerin?
Disons que, en fait, même quand ce n'est pas une année d'élection municipale, on est toujours sur le terrain. Bah, Pierre, qui est à mes côtés, pourra vous en parler. Il fait partie de ceux qui écument le territoire semaine après semaine. On a une rubrique notamment qui s'appelle « Ça marche » dans Le Pèlerin, que vos auditeurs connaissent peut-être, et qui met en scène chaque semaine une initiative locale, associative, entrepreneuriale, publique, qui permet à des citoyens de s'engager sur une problématique. Donc vous voyez cet engagement des gens dans leur territoire, c'est quelque chose qui fait partie de l'ADN de notre journal. C'est une habitude pour nous. Et là, on a eu envie de prolonger cette démarche en allant à la rencontre de maires non pas de façon partisane. Il y a des maires qui sont sans étiquette, d'autres qui sont dans un parti, certains se représentent.
Ça, c'est la particularité des élections locales.
Certains se représentent pas. Nous, ce qui a primé dans nos choix de reportage, c'était la qualité, la constance de l'engagement sur une problématique donnée, sans cacher les difficultés, les résistances que ça peut susciter parfois. Mais on a voulu montrer comment des maires se retroussaient les manches aujourd'hui pour améliorer la vie de leurs concitoyens, pour favoriser la démocratie locale.
Quelles sont les villes un peu que vous avez ciblées?
Eh ben, on a essayé d'être, on va dire, le plus exhaustif possible. Alors, toutes les villes ne sont pas encore bien calées, mais pour le moment, Pierre a été en Normandie, on s'est rendu en Bretagne. La Villiers-le-Bel, c'est la région parisienne. On va aller dans l'Est aussi, on va aller dans le Sud. On essaye d'aller un peu partout, mais comme chaque semaine, vous savez, dans mon bureau, j'ai une carte de France où on épingle, enfin, moi, en tout cas, j'essaye de le faire chaque semaine, les lieux où on a été en reportage pour que, on n'aille pas toujours au même endroit et que notre magazine, d'une certaine façon, soit le plus local des quotidiens nationaux.
Alors, je me tourne vers Pierre. Pierre, vous êtes allé vraiment là sur le terrain. Alors, le reportage justement qui est paru cette semaine, c'est autour de la ville de Caen. Donc, vous êtes parti à Caen et le titre de l'article, c'est Caen en mission pour sauver son centre-ville. Alors, donc, c'est une problématique qu'on retrouve dans plusieurs villes. Et dès le début de l'article, vous parlez de ce sauvetage, on va dire, du centre-ville comme un combat de titans. Alors, pourquoi vous l'avez qualifié comme ça? Et puis, comment vous avez senti le pouls en rencontrant le maire, l'équipe locale? Qu'est-ce que c'est, ce combat?
Alors, comme vous dites, c'est quelque chose qu'on constate en permanence lorsqu'on va sur le terrain, que ce soit des petites villes moyennes ou des grandes villes, il y a très peu d'exceptions. Les centres-villes sont en souffrance, on voit les panneaux à vendre dans les différentes boutiques. Et ça donne une ambiance toujours très particulière aux villes. Et on se rend compte depuis plusieurs années, quand on retourne dans les villes, que ça s'aggrave. Donc c'est quelque chose qui concerne énormément de villes. Donc c'est un phénomène national, c'est-à-dire que c'est pas qu'une question locale, il y a des forces à l'œuvre qui dépassent les petites communes et qui dépassent les maires.
L'exemple de Caen, voilà. C'est quoi leur problème? Parce qu'il y a une situation...
Leur problème, c'est le même que les autres. En fait, le vrai problème de la désertification des centres-villes, c'est le développement des zones commerciales périphériques. C'est le développement de grandes enseignes, de grands magasins en périphérie, qui concurrencent les commerçants de centre-ville et contre qui on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter parce que c'est toujours plus facile et moins coûteux de construire sur des zones où il n'y a rien que de restaurer des bâtisses anciens, que c'est compliqué, il y a des recours juridiques possibles. Donc il y a une distorsion de concurrence qui est très forte. Et une des seules manières, la meilleure manière d'empêcher que les commerces de centre-ville périclitent, c'est d'empêcher le développement de grands centres commerciaux quand... en l'occurrence, se bat depuis plusieurs années contre un grand centre IKEA qui regroupait donc IKEA évidemment, mais pas que IKEA, d'autres enseignes qui s'agglomèreraient autour d'IKEA, qui est une marque phare
et
qui attire énormément de consommateurs.
Zones.
Voilà. Et donc, ça attirait énormément de chalands si ce magasin voyait le jour. Et les commerces de centre-ville de Caen seraient les premiers impactés. Et ce qui était intéressant à Caen, c'est que c'est plutôt une... Là, pour le coup, c'est politiquement, c'est une mairie Les Républicains, donc de droite. Mais ils sont absolument contre le projet. Et il n'y a pas qu'eux. Il y a aussi les élus de gauche, les élus du centre. Enfin, tout le monde unanimement opposé à ce projet à Caen. Et c'est pour ça que ça m'intéressait d'aller là-bas.
Oui, parce que en fait, ça crée un consensus. C'est ce que vous dites un peu dans l'article. C'est que là, ça, vraiment, ça dépasse les partis, quoi.
Bah, il y a quelques années, ça aurait peut-être été moins le cas parce qu'on trouvait toujours des raisons différentes au déclin des centres-villes. On disait que les commerçants n'étaient pas assez ouverts, que le Internet concurrençait beaucoup les commerces. Mmh. Et en fait, les études qui ont commencé à naître ont montré vraiment que c'était le développement très fort des hypermarchés, des supermarchés qui expliquaient ça. En 10 ans, on a doublé le nombre de supermarchés en France. On est passé de 5 000 en 2008 à 10 000. En 2018, c'est un phénomène très, très, très puissant et très rapide, en fait. Et on l'a totalement sous-estimé. Beaucoup l'ont sous-estimé, en tout cas.
Et pourtant, on sent aussi qu'il y a quand même un mouvement aujourd'hui de la population qui retourne vers une sorte d'écologie de la vie quotidienne. On sent bien qu'il y a, on va défendre les petits commerces, on va défendre le vendeur de bio, on va défendre ça. Donc, est-ce que c'est parce que la tendance n'a pas encore, ça n'a pas encore fait un effet d'escalier suffisamment fort pour contrer le développement de ces grandes zones périphériques?
Alors, il y a des indices prometteurs, entre guillemets. Il y a pas longtemps, il y avait le grand centre commercial d'Europa City qui a été abandonné en Île-de-France. On devait artificialiser 80 hectares de terres agricoles. Ça a été abandonné, donc c'est quand même un marqueur fort. Et dans beaucoup de villes, ça devient un enjeu très fort pour les élections municipales. Voilà, j'avais un consultant que j'ai interrogé, Franck Guintrand, dans l'article, qui m'expliquait qu'à Montpellier, par exemple, il y a un énorme centre commercial qui doit se développer et ça pose vraiment problème, et c'est un des enjeux principaux du scrutin à Montpellier pour les élections locales. Parce que voilà, le dynamisme d'une ville, le dynamisme du centre-ville, en fait, c'est de ça découle énormément de choses. L'impression de vivre dans une ville qui bouge, qui est dynamique, le fait de voir d'autres gens, le fait aussi de se promener dans un beau centre-ville avec des bâtiments historiques, qui confèrent une identité à la ville et qui n'est pas une simple, voilà, quelque chose qui n'est pas lié aux racines, à l'histoire. Enfin, ça soulève beaucoup de choses, en fait. Et le centre-ville, voilà, c'est un enjeu extrêmement fort pour les élections municipales.
Est-ce que là, à Caen, vous avez senti que le combat du maire, de l'équipe, était vraiment soutenu par la population? Parce que parfois, la population ne sent pas forcément tout de suite les enjeux qu'il y a derrière.
Alors, j'ai pas pu interroger tout le monde. Hein.
Forcément.
je vais pas vous mentir. Mais en général, quand les Français sont interrogés, ils sont plutôt solidaires de ces combats-là, oui. Ce maire en particulier avait été élu un peu sur ce sujet-là du centre-ville à l'époque, en 2014. Pour autant, il y a toujours un peu de schizophrénie parce que les Français aiment bien dire qu'ils consomment locaux, qu'ils achètent Made in France. Mmh. Puis en fait, les enquêtes montrent qu'ils achètent de plus en plus à l'étranger et qu'ils vont de plus en plus dans les zones périphériques. Mmh. Et en même temps, bon, c'est facile pour nous de juger d'en haut parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, il y a des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat, des populations urbaines, des populations dans les métropoles. Donc c'est toujours un peu ambivalent. Les Français vont dire une chose et ils vont agir d'une autre. Et des fois, ils n'ont pas vraiment le choix.
Là, à Caen, les solutions qui sont proposées, c'est un réaménagement, c'est rendre le centre-ville plus agréable. Quelles solutions ils proposent concrètement?
Alors voilà, il n'y a pas que la solution d'empêcher les centres commerciaux. Il y a aussi, évidemment, ce qu'a fait Caen, mais ce que font plein d'autres villes, c'est de rendre un centre-ville piéton. C'est idiot, mais ça permet de le rendre plus joli. Ça permet d'attirer les familles qui ont moins peur des voitures. Ça permet aussi de passer, c'est plus agréable de toute façon. Et mais ça a été longtemps ce concept de rendre un centre-ville piéton n'a pas été accepté parce que les commerçants, notamment les commerçants mais pas que, disaient non, il faut, le problème c'est qu'il n'y a pas assez de places de parking dans les centres-villes. Oui. Pour qu'ils puissent se garer et venir faire des courses chez nous. On s'est rendu compte que c'était plus compliqué que ça, que faire des places de parking ça prend beaucoup de place, que ça empiète un moment avec le déplacement dans les centres-villes. Donc voilà, c'est une des solutions qui a été prise en compte. Il y a aussi le fait de développer les transports en commun, c'est très important. Caen a dépensé beaucoup d'argent, des millions d'euros pour rénover son tramway, pour que les gens puissent arriver facilement au centre-ville sans prendre leur voiture. Ils ont une petite navette gratuite électrique qui se promène dans le centre-ville où on peut la héler et y entrer et demander à aller un peu plus loin si on veut. Donc c'est plein de petites solutions comme ça qui, bout à bout, ils ont aussi baissé la fiscalité pour les commerçants locaux, baissé les impôts, plein de petites mesures qui font partie des prérogatives du maire, qui font partie de son pouvoir et qui peuvent lui permettre de changer le quotidien des gens et de changer aussi le visage de la ville.
François-Xavier Maigre, dans ce que dit Pierre, votre reporter, on sent bien que derrière ça, il y a un enjeu presque de réhabiter la ville, en fait, de réhabiter l'espace urbain. C'est quelque chose qui revient aussi régulièrement dans les colonnes de Pèlerin.
Oui, ça rejoint un petit peu le dernier sujet qui nous avait rassemblés sur l'habitat intergénérationnel.
Exactement.
Ouais. Y a aujourd'hui, on sent poindre dans notre société un besoin de retrouver le sens du collectif, du commun, d'une vie commune. Il faudrait demander à des spécialistes. Moi, j'attribue ça au fait qu'on est peut-être dans une époque où notre capacité d'entrer en relation s'est diluée, notamment à la faveur des nouvelles technologies avec Internet, le digital, le fait que nos familles sont de plus en plus écartelés sur le territoire et on voit bien que face à cette grande dilution, le besoin de se sentir enraciné quelque part, de vivre dans un territoire donné, de connaître ses commerçants, de connaître ses voisins. La fête des voisins, pour moi, ça participe aussi de ce besoin de retrouver un esprit de village d'une certaine façon. Ça va dans le même sens. Mais ce qui est intéressant dans ce qui se passe à Caen aussi, je trouve, c'est que de se dire que finalement l'expansion perpétuelle n'est pas forcément le devenir des villes. On n'a pas forcément besoin de toujours plus. Je crois de mémoire dans le reportage de Pierre, c'était bien expliqué, c'est-à-dire qu'il y a déjà des centres commerciaux qui existent et qui sont vraisemblablement suffisants pour la vie des habitants. D'autant qu'on sait très bien qu'il y a des gros enjeux aussi écologiques, parce qu'une fois qu'on a rogné sur des terres agricoles pour y bâtir des zones commerciales, une fois qu'on a bétonné, c'est très compliqué de revenir en arrière. Je ne sais même pas si c'est possible d'ailleurs techniquement, écologiquement. Mais aujourd'hui, il y a vraiment un enjeu, je trouve, d'habiter l'existant. Il faut arrêter de lotir à l'infini et de rendre les gens esclaves de leurs voitures et de créer des zones industrielles. On a une espèce d'expansion folle sur le territoire, alors que l'enjeu me semble plutôt de réhabiter les espaces dont nous disposons à hauteur d'homme et d'une façon plus réaliste.
Est-ce que votre message en tant que journaliste, c'est évidemment de rendre compte de ce qui se passe sur le terrain? Est-ce que vous portez aussi, vous avez envie aussi pas d'éduquer le lecteur, mais d'amener un message, de rendre clairvoyant certains enjeux, en fait, sur ces élections municipales. Ce que vous dites sur attention, une fois que c'est bétonné, c'est compliqué de revenir en arrière. Parfois, dans l'actualité comme ça, dans sa vie quotidienne, on n'a pas ça en tête, forcément.
Bien sûr, vous voyez, on a des convictions. Pèlerin, c'est un journal qui porte une voix, qui a une vision, qui a des combats. Mais on n'est pas non plus des militants. Et dans cet exercice de ce Tour de France des municipalités, on est d'abord des médiateurs entre nos lecteurs et les gens qu'on va rencontrer. Et nous, notre rôle, c'est la façon la plus honnête et la plus neutre possible de rendre compte des situations qu'on découvre sur le terrain. On n'est pas là pour on n'est pas un organe partisan ou militant. Mais c'est certain que dans le choix des sujets, dans le choix des interlocuteurs qu'on va rencontrer, on essaye de faire passer un message.
L'idée, c'est que les électeurs, avant de poser leur bulletin de vote en mars pour les municipales, soient conscients des pouvoirs qu'a un maire pour choisir en tout état de cause, en toute bonne conscience. Le maire n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un député, que le président de la République. Il faut aussi voter en fonction de ce que peut changer un maire. Et qu'est-ce qui importe aux gens dans leur vie quotidienne? Donc ça, il faut que chaque électeur, en fait, chaque citoyen ait conscience de ça et sache exactement ce que fait le maire. Et tout le monde ne le sait pas.
Oui.
D'ailleurs, il y a énormément de Français dont le choix dans un vote local n'est pas du tout guidé par un ancrage politique, mais bien davantage par des problématiques liées à la municipalité. On vote pas forcément pour le parti dont on se sent relevé.
Oui, les élections municipales, c'est vraiment très particulier comme attachement, en fait. Nous parlons des élections municipales, de l'engagement de ces élus, des enjeux qui ressortent avec l'hebdomadaire Pèlerin. Vous êtes sur Grand Angle.
Change et que ça bouge, lève-toi car
Et c'est Michel Fugain que nous écoutons, Chiffon Rouge, dans Grand Angle sur RCF. Aujourd'hui, nous parlons des élections municipales et avec moi pour en parler, François-Xavier Maigre, rédacteur en chef de Pèlerin, et puis Pierre-Wolf Mandrou, journaliste et reporter à Pèlerin.
Grand Angle, RCF.
Alors Pèlerin, comme beaucoup de médias et comme RCF également, se lance dans cette opération des élections municipales. Voilà, vous partez sur le terrain, vous interrogez des maires. Pierre, donc vous êtes parti à Caen donc il y a quelques semaines. Et donc un article vient de paraître dans le Pèlerin. Mais vous avez fait aussi, vous avez couvert d'autres villes. Et le Pèlerin a évoqué en novembre toute une enquête, hein, il me semble, François-Xavier Maigre, autour de différentes figures de maires. C'était à l'occasion du congrès des maires de France.
Oui, en fait, on a décidé d'aller à la rencontre des maires qui y croient encore. Parce que il y avait dans l'actualité, mais Pierre en parlera beaucoup mieux que moi, énormément de signes de fatigue de la part des maires, parfois de découragement. Notamment, il y a eu cet été ce fait divers qui a tragiquement mis en avant le désarroi des maires avec la mort du maire de Signes, qui s'est fait renverser en intervenant sur sa commune suite à l'abandon de déchets, un abandon sauvage de déchets dans un quelque part sur le territoire de sa commune. Et dans les semaines qui ont suivi, beaucoup de maires ont exprimé leur lassitude face aux incivilités, face à une forme de brutalité sourde dans leur quotidien, de manque de reconnaissance. Et beaucoup, au début, font ça avec énormément d'idéalisme, de générosité. Et leur d'une certaine façon, leur énergie s'érode au fur et à mesure du temps qui passe. Et on a eu envie d'aller à la rencontre des maires qui voulaient malgré tout continuer à y croire et ne pas jeter l'éponge. Et c'est pour ça qu'on a fait ce sujet, qui répondait aussi à l'autre versant de l'enquête qu'on avait publié un an plus tôt, sur justement les maires qui n'en peuvent plus, quoi. Et ça nous semblait important d'avoir un parti pris volontariste à l'aube d'une année électorale qui allait être très importante.
Et puis ça incarne un peu les choses, c'est-à-dire que parfois on regarde les programmes et puis on oublie que voilà, c'est quand même porté par des hommes et des convictions et des hommes sur le terrain. Pierre, vous en avez rencontré plusieurs, peut-être de différentes communes. Quel est votre constat en tout cas par rapport à ceux que vous avez rencontrés?
En fait, c'est ce qu'on disait au début de l'émission, c'est que les maires sont un peu victimes de leur succès. C'est les élus les préférés des Français, toutes les études le montrent. Parce qu'ils sont très proches des gens, parce que ce qu'ils font est très concret. Quand ils construisent une école, on comprend tout de suite l'action du maire.
Oui, on voit l'action en plus.
Voilà, c'est très concret. Alors, paradoxalement, du coup, ils sont victimes de cela parce qu'il y a énormément d'attentes de la part des citoyens. Je ne vais peut-être pas entrer dans les détails de pourquoi ils sont de plus en plus exigeants, mais il y a une espèce d'émergence d'un citoyen un peu consommateur qui veut tout de suite et qui est très exigeant avec les maires et qui ne comprend pas lorsqu'on n'accède pas à ses désirs. Donc les maires sont très sollicités, on leur demande beaucoup de choses, ils ne sont pas toujours remerciés pour ce qu'ils font. Et effectivement, il y en a qui craquent, il y en a qui ne se représentent pas. Cette année, il y a au moins la moitié des maires qui ne se représenteront pas, ce qui est beaucoup plus que lors des dernières élections municipales. Et donc clairement, il y a eu des signes assez forts de cette lassitude. Nous, ce qui nous intéressait, c'était d'aller voir des maires qui vont se représenter, qui aiment ce qu'ils font, et qui nous expliquent un peu pourquoi eux ils ont pas craqué finalement par rapport au reste des maires.
Oui, alors on en voit, on voit qu'il y a le maire combatif. Il y a une maire qui a été interviewée à Chanteloup-les-Vignes. Je ne sais pas si c'est vous qui l'avez rencontrée ou un autre journaliste.
Alors mais... non, c'était une collègue.
Mais ouais. Donc là, on sent que le titre, c'était tenir envers et contre tout. Donc on sent qu'il y a vraiment ce côté de tenir. Et celle-ci parle de que c'est aussi l'échelon, on va dire, l'échelon de la République qui doit tenir. En fait, est-ce que c'est un sentiment qui est partagé par d'autres de dire si le maire flanche, c'est vraiment le dernier échelon de la République qui flanche, quoi. On peut pas se permettre.
Oui, non, mais tout à fait. Et ils sont d'ailleurs très attachés au symbole. Alors moi, j'ai vu un maire dans le Var. Quand on lui a proposé de faire des photos avec son écharpe tricolore, il a dit attendez, il faut d'abord que je m'habille bien, que je vais pas porter ce que je suis en train de porter, parce que quand on l'a vu, il était en train de rénover un vieux mas au milieu des vignes. Donc il n'était pas extrêmement bien apprêté. Il a dit non, ça se respecte, l'écharpe tricolore, c'est la République, on fait pas n'importe quoi, il faut respecter cette fonction. Et ils en sont très fiers. Enfin, il y a une forte dignité qui est attachée à la fonction. Les gens aussi sont attachés à la fonction, ils donnent du monsieur le maire à la personne. Enfin, oui, ils sont extrêmement importants. Ils sont les interlocuteurs de tous les élus de leur territoire. Ils parlent au préfet, ils parlent aux élus du département, de la région. Ils font le lien avec l'État, avec les ministres. Enfin, c'est vraiment, voilà, c'est l'huile dans les rouages, quoi, de la République, les maires. Ils sont extrêmement attachés à leur fonction.
Mais alors, il y a quand même une différence entre être maire d'une petite commune, peut-être dans le Var, et puis d'une grosse commune. Parce qu'on sent bien aussi que... c'est pas deux poids deux mesures, mais on sent bien qu'il y a le maire qui est un peu tout seul, qui a une secrétaire et puis voilà, qui gère tout un peu tout seul. Et puis il y a les maires qui ont vraiment une grosse équipe. Les plus découragés, c'est peut-être ceux qui se sentent un peu plus tout seuls ou finalement c'est pas lié.
Si, c'est quand même assez lié. Enfin, c'est vrai que les maires des grandes villes, bon, le maire de Caen par exemple a tout un cabinet derrière lui, des gens très compétents, des gens diplômés, des gens qui vont vraiment l'aider dans sa tâche. En fait, ce que j'ai découvert moi, c'est que les maires qui craquaient le plus, c'était les maires qui avaient beaucoup plus de mal à déléguer en fait des tâches à d'autres personnes. Alors, soit parce que il y a un côté, ils veulent absolument réussir par eux-mêmes, ils veulent un peu tout contrôler aussi parfois, et donc ils comptent pas leurs heures, ils travaillent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, ils ont leur téléphone toujours ouvert pour les citoyens, mais ils finissent souvent par craquer parce que c'est très très dur. Puis en plus, quand on est maire d'une petite commune, on touche une très petite indemnité, donc la plupart travaillent à côté, donc concilier les deux, c'est extrêmement difficile, alors qu'un maire d'une grande ville est un maire à plein temps, enfin, surtout que maintenant il n'y a plus de cumul des mandats avec le rôle de député, donc c'est, effectivement les petits maires sont plus sollicités et ont plus de difficultés. Les maires que j'avais vus dans le Var, ce qui est intéressant, c'est que c'était des maires de petites communes. Et eux adoraient ce qui est leur fonction, mais ils m'expliquaient, voilà, moi, j'ai décidé de m'occuper de la mairie que l'après-midi, et le matin, je m'occupe de il était vigneron, en l'occurrence, je m'occupe de mes vignes, et l'après-midi, je m'occupe du métier de maire. Un autre me disait, moi, je consacre que deux après-midi par semaine à cette fonction. Le reste du temps, j'ai une équipe à qui je fais confiance et qui va se débrouiller. Voilà, mon adjointe à l'éducation s'occupe de l'éducation, mon adjointe, il m'appelle évidemment s'il y a besoin, mais je délègue beaucoup plus. Et donc il y a aussi une part de confiance qui est très importante, il faut avoir une équipe soudée et solide, mais ça nécessite aussi d'avoir des citoyens au niveau local qui sont engagés. Et c'est difficile parfois de recruter des citoyens qui sont prêts à s'engager pour ces fonctions-là, parce que c'est beaucoup de travail, peu de reconnaissance, et alors l'argent, n'en parlons pas.
Oui, alors vous parliez tout à l'heure de l'exigence aussi des Français vis-à-vis de leur maire, c'est-à-dire qu'à la fois ils sont très attachés et en même temps peut-être il y a un manque de reconnaissance, je ne sais pas si c'est quelque chose qui ressort. Est-ce qu'il y a une exigence très forte des électeurs, on va dire des Français, et en même temps une reconnaissance moyenne du travail, ou peut-être une méconnaissance?
Oui, je pense qu'il y a un peu de ça. Ils se rendent pas compte que des fois la fonction de maire est extrêmement chronophage. Enfin, ils ont l'impression, quand ils voient le maire, ils lui serrent la main, ils ont envie de lui parler de leurs problèmes au quotidien, leurs problèmes de voisinage. Mais sauf que tout le monde fait ça dans la commune, et c'est quand même un peu. Le maire peut pas tout résoudre. Moi, je pense que c'est dû aussi au fait que. Enfin, c'est un phénomène global, c'est que les corps intermédiaires en France sont beaucoup plus faibles qu'avant, les occasions de se rassembler des gens sont moins fortes, les syndicats sont moins forts, l'Église est moins forte, les liens sont beaucoup plus distendus dans la société aujourd'hui, et donc les gens se raccrochent à ce qui reste. Il y a aussi du chemin, et souvent c'est le maire qui voit, donc il se raccroche au maire, et il lui demande beaucoup plus qu'avant.
Et alors, ceux qui sont heureux malgré tout, Qu'est-ce qui les porte ?
C'est de voir les actions concrètes de leur fonction. Enfin, souvent les gens ont, je pense, plus besoin de sens dans leur travail que d'argent. Je connais plein de gens qui travaillent dans des grandes entreprises mais qui sont pas forcément heureux parce qu'ils manquent du sens à leur fonction. Là, un maire, le maire du Var me disait, j'ai été élu pour construire une école municipale. Une école communale, je l'ai construite, je l'ai vue, elle est là entre deux bâtiments. Je sais que cette école et les enfants qui viennent et qui sont récupérés par leur famille le soir, les cris d'enfants dans le village, je sais que c'est moi qui l'ai réalisé, et c'est extraordinaire. Et puis il y a aussi quand même de la reconnaissance de la part des citoyens. Voilà, il m'expliquait, mais ça fait partie des petites choses. Mais il me disait, on a baissé l'éclairage nocturne dans la commune pour qu'on voit plus facilement le ciel. Et du coup, un couple de la commune est venu le voir pour le remercier, le maire, en lui disant, bah merci, grâce à vous, on voit les étoiles et c'est magnifique. Et quand il m'a dit ça, le maire, il avait lui-même des étoiles dans les yeux. Enfin, c'est très concret, c'est très touchant. On se dit, voilà, je sers à quelque chose et je sers ma commune.
Et il y a aussi, je ne sais pas, parmi les figures de maires qui ont été rencontrées et qui font partie de l'enquête, il y a aussi des maires, parfois presque de père en fils, enfin, en tout cas un engagement vis-à-vis de la commune qui est familial. Est-ce que ça fait... mon sentiment un peu en lisant l'article, de me dire finalement, il y a aussi une responsabilité peut-être de toute la communauté de transmettre un peu ce service citoyen. Il y en a un qui dit que bah, quand il était petit, bah, voilà, son père l'emmenait pour le dépouillement des scrutins. Et donc, ça faisait partie, c'était normal. Il savait que, bah, voilà, il connaissait la vie de la commune et c'était transmis par la famille. Donc il y a peut-être quelque chose comme ça de responsabiliser un peu les communes, chaque citoyen pour transmettre cet engagement.
Il y a des familles qui sont en fait ancrées sur des territoires depuis des décennies, voire même des siècles. Et c'est presque dans la continuité des choses, quand on est attaché à un territoire et qu'on y habite depuis des décennies, de le servir, entre guillemets, et de contribuer à le façonner. Donc c'est finalement assez logique qu'on retrouve des familles qui sont attachées à un territoire occuper des fonctions de responsabilité locale, effectivement. Après, évidemment, bon, je pense qu'il ne faut pas non plus être trop naïf, il y a aussi l'attrait du pouvoir qui est quelque chose d'important. Ça joue, c'est des motivations qui jouent, même si ces motivations sont beaucoup moins importantes pour un maire que pour un député ou que pour un ministre ou un président, je pense. Mais ça joue aussi, évidemment.
Mais parfois, il y en a aussi qui, souvent, on dit qu'on a envie de gravir un échelon supplémentaire parce que pour avoir plus de moyens, en se disant que bah, si on est un niveau au-dessus, on aura un pouvoir de décision plus fort qui pourra peut-être faire plus changer les choses. Je ne sais pas si c'est un discours que vous avez entendu. Est-ce qu'il y a des maires qui regrettent un peu ce manque de pouvoir de décision ?
Oui, alors... Il y avait quand même une des raisons du malaise des maires et de leurs difficultés. C'est pas seulement le citoyen qui n'est pas reconnaissant. C'était aussi la baisse de dotation de l'État depuis des années enclenchée sous le mandat de François Hollande. Les contributions baissent d'année en année. Ça a beaucoup pesé sur le moral de beaucoup de maires. Et il y a aussi autre chose dont on parle peu mais qui est quand même très important. C'est le développement très fort des intercommunalités. C'est-à-dire que maintenant, les communes se regroupent au sein de structures un peu, au nom un peu bâtard, pour essayer de mettre en commun leurs moyens. Alors, ça permet de faire des économies, mais le problème aussi, c'est que souvent, le maire est dépossédé de certains pouvoirs au détriment de l'intercommunalité. C'est parfois une frustration chez certains maires de se rendre compte « Ah oui, mais en fait, on peut plus s'occuper de la vie économique locale parce que c'est l'intercommunalité qui a pris ce pouvoir-là dans le territoire. » Donc, il y a aussi ce phénomène qui explique le désarroi des maires.
François-Xavier Maigre, les différents journalistes que vous envoyez là sur le terrain pour cette enquête, j'imagine qu'ils vont peut-être parfois faire remonter un peu les mêmes... on va dire les mêmes questionnements ou les frustrations, la passion. Comment vous allez bien sélectionner pour que chacun reste un peu défendre l'enjeu peut-être thématique que vous avez choisi. Est-ce qu'il y a une sélection? Est-ce que vos sujets vous les ciselez un peu au fur et à mesure que les journalistes reviennent du terrain?
Non, en fait, on le fait vraiment en amont. Il y a comme toujours dans nos choix de reportage, il y a un gros travail de prospection avant de partir en reportage. Les journalistes comme Pierre font un vrai travail de recherche et d'études avant de partir et avant de contacter même leurs interlocuteurs pour s'assurer que le territoire dans lequel on va se rendre correspond bien à l'angle qu'on a envie de traiter. Par exemple, le numéro qui sort jeudi sur la question du mal logement. La journaliste a fait un travail important de pré-enquête pour s'assurer que c'était bien une commune qui était confrontée à cet enjeu et qui avait mis en place des solutions innovantes pour y répondre. Et une fois que voilà, quand on contacte les municipalités, les associations locales qu'on va rencontrer, on s'assure bien qu'ils sont d'accord pour que voilà, pour nous recevoir sur cette problématique-là, même si évidemment ça peut toucher d'autres sujets périphériques, on essaye quand même de tenir des angles bien précis, parce que c'est cette précision thématique qui va donner tout le relief de notre série, et nos lecteurs nous lisent aussi pour cette exigence.
Nous parlons des élections municipales, croire en l'engagement des élus, comprendre les enjeux aussi de ces élections. Vous êtes sur RCF dans Grand Angle.
Au rez-de-chaussée, dans mon HLM, il y a une espèce de barbouze qui surveille les entrées, qui tire sur tout ce qui bouge, surtout si c'est bronzé. Passe ses nuits dans les caves avec son Beretta, traque les mots qui chouravent l'opinard aux bourgeois. Il se recrée l'Indochine dans sa petite vie de peine cul. Sa femme sort pas de la cuisine, sinon il cogne dessus. Il est tellement givré que même dans la Légion, ils ont fini par le jeter. C'est vous dire s'il est con. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Et la monde du huitième, le HLM. Au premier, dans mon HLM, y'a le jeune cap dynamique, costard en alpaga, celui qui a payé 20 briques, 102 pièces plus le chia. Il en a chié 20 ans pour en arriver là. Maintenant il est content, mais il parle de se casser. Toute façon il peut pas, il lui reste à payer le lave-vaisselle, la télé et la sûre pour ses chats. Parce que naturellement, ce bon contribuable centriste, il aime pas les enfants. C'est vous dire s'il est triste. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Et l'amour du huitième, le HLM. Au deuxième, dans mon HLM, y'a une bande d'allumés qui vivent à 6 ou 8 dans 60 mètres carrés. Y'a tout le temps de la musique, des anciens de 68. Y'en a un qui est chômeur, y'en a un qui est instite, y'en a une, c'est ma sœur. Ils vivent comme ça, relax. Y'a des matelas par terre, les voisins sont furax. Ils font un boucan d'enfer, ils payent jamais leur loyer. Quand les huissiers déboulent, ils écrivent à Libé. C'est vous dire s'ils sont cool. Putain, ce qu'il est blême, mon HLM. Et la monde du huitième, le HLM. Au troisième, dans mon HLM, y'a l'espèce de connasse, celle qui bosse dans la pub, l'hiver à Borgia.
Et c'est Renaud que nous écoutons dans mon HLM. Vous êtes sur RCF dans Grand Angle.
Grand Angle, Faustine Fayette.
Nous évoquons les élections municipales, les enjeux locaux, comment se portent nos maires aujourd'hui, et puis voilà tout ce que les combats des maires et des villes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour en parler d'ailleurs, nous avons donc François-Xavier Maigre du journal Le Pèlerin et Pierre Vols-Mandrou du journal Le Pèlerin aussi, et également maintenant en ligne, Victor Pécheux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes directeur du renouvellement urbain à Villiers-le-Bel. Mmh. Voilà. Et vous avez été notamment, alors, une des journalistes du Pèlerin est venue vous rencontrer à Villiers-le-Bel. Ce sera un article qui sortira dans le prochain numéro du Pèlerin jeudi. Et je voudrais vous poser, donc, nous évoquions juste avant que vous arriviez à l'antenne, ben, le moral un peu de ces maires, leur découragement, leur passion. Vous, votre combat à Villiers-le-Bel, un de vos combats, on va dire, c'est quand même l'enjeu du logement et peut-être la lutte contre le mal logement. Alors, si vous pouviez nous redire pourquoi il y a ce combat chez vous, et puis comment, quelles solutions vous préconisez, vous posez pour ces élections.
Alors, je ne vais pas me prononcer sur oui. le programme des élections municipales. Je brosse un rapide portrait de la ville de Villiers-le-Bel. Donc, c'est une commune du Val d'Oise, dans la deuxième couronne d'Île-de-France. C'est une des plus pauvres de France. C'est 27 000 habitants, 10 000 logements. La moitié des logements, c'est du parc social, l'autre moitié du parc privé. C'est une ville qui a été construite dans les années d'après-guerre, donc les années 60-70, une commune avec un tissu pavillonnaire, mais aussi des quartiers de grands ensembles. Donc les gros enjeux sur le logement, c'est d'abord la réhabilitation du parc social. Donc, c'est des choses qui sont déjà engagées en partie grâce au premier programme de renouvellement urbain qui a démarré au milieu des années 2000. Et puis c'est aussi l'accompagnement du parc privé, également qui a de grosses difficultés. L'enjeu est principalement là parce que le parc social, on a des bailleurs institutionnels qui font les efforts pour réhabiliter le parc. Mais dans le parc privé, on est face, nous, dans notre commune, à des copropriétaires qui sont en grande difficulté. Et il y a une spirale de dégradation, à la fois dans le tissu pavillonnaire et à la fois dans des copropriétés verticales, donc des grands ensembles aussi, qui s'en sortent pas.
Alors, vous avez une marge de manœuvre quand même que vous pouvez développer pour lutter contre ces problématiques ?
Oui, alors l'État finance des dispositifs d'accompagnement des copropriétés qui sont en difficulté ou des dispositifs d'accompagnement des copropriétés. Donc la ville de Villiers-le-Bel s'en est saisie. Donc on accompagne des copropriétés dans des dispositifs d'amélioration de l'habitat, donc plan de sauvegarde, des opérations programmées d'amélioration de l'habitat copropriété dégradée. Donc ces dispositifs permettent d'avoir un opérateur qui accompagne le conseil syndical, donc les représentants des copropriétaires, le syndic, c'est la structure qui s'occupe de la gestion quotidienne de la copropriété, dans l'amélioration de la gestion de la copropriété et aussi dans la réflexion sur les travaux de réhabilitation pour améliorer le confort des logements, faire des travaux de performance énergétique pour diminuer les charges. Et tous ces dispositifs sont financés par l'ANA, par la Banque des Territoires également, par anciennement la Caisse des Dépôts, que ce soit sur le financement du fonctionnement du dispositif, donc le missionnement d'un opérateur qui nous accompagne, et également les investissements.
Alors, votre enjeu aussi, c'est du coup de mettre ensemble, on va dire, tous ces partenaires-là, de coordonner tout ça, peut-être de recréer du lien social. Tout à l'heure, on parlait du lien social aussi avec d'autres problématiques pour d'autres villes, notamment les centres-villes. Et on évoquait le terme de combat de titans. C'était le journaliste Pierre Wolf qui parlait de ça. Est-ce que vous définiriez, vous, que cette lutte contre le mal-logement, c'est aussi un combat de titans? Et comment vous faites pour dépasser les moments de découragement parfois?
Alors, le mal-logement, c'est effectivement un combat de titans. On est face à des situations où il y a des marchands de sommeil, hein, des investisseurs indélicats qui profitent de la baisse du marché, qui achètent des logements pas chers, qui ensuite les mettent en location à des loyers assez déraisonnables par rapport à ce que sont ces logements et ne paient pas leurs charges. Donc, ils sont dans une rentabilité maximum. On a une extrême difficulté à lutter contre ces marchands de sommeil. Donc on met en place des dispositifs. Hein. On a mis en place, par exemple, à Villiers-le-Bel, le permis de louer. Donc comme ça, on s'assure que le logement qui est mis en location est aux normes d'habitabilité minimale. Et on essaie aussi de mettre en place des procédures pour lutter contre les marchands de sommeil, mettre en place des préemptions lorsque des logements sont en vente pour éviter qu'ils soient acquis par des marchands de sommeil. Donc on mène un combat, mais qui est extrêmement dur parce que on n'a pas tous les outils juridiques pour ça. Mais les élus sont fortement engagés et du coup les services également.
Et vous, quelles sont vos fiertés du coup quand peut-être il y a des choses qui marchent? Sur quelles sont vos joies ou vos fiertés dans ce combat-là ou dans votre engagement en tout cas au service de la cité?
Bon, c'est d'être utile, hein. C'est aussi pourquoi on travaille dans une collectivité, c'est qu'on a envie de répondre aux attentes des administrés. On travaille pour l'intérêt général, donc on est content qu'on arrive à résoudre des problématiques. Mais après, que ce soit l'habitat privé ou les projets urbains, en général, on est sur des temps longs. Donc nous, on a la patience du projet, mais on n'est pas associé à des habitants qui sont dans leurs problématiques du quotidien et qui ne comprennent pas qu'on ne puisse pas répondre immédiatement à leurs difficultés. Voilà, on est dans cette gestion du temps.
C'est vrai qu'on évoque souvent dans ce travail des élus locaux aussi, un besoin de pédagogie vis-à-vis des Français, des concitoyens qui ne comprennent pas toujours les lourdeurs administratives, qui ne comprennent pas toujours que ça n'arrive pas tout de suite. Ça vous demande aussi, c'est une grosse partie de votre travail aussi, ce travail de dialogue et de pédagogie.
Oui, enfin, quand on explique aux copropriétaires, aux habitants, ce qu'est le temps du projet, ils comprennent que la commune n'a pas les moyens, elle, de les aider sur les dépenses d'investissement qu'ils doivent réaliser, ou qu'il y a des dispositifs que l'État a mis en place, et que c'est l'État aussi qui décide d'accorder ou pas ces financements. Donc ils savent qu'ils doivent travailler avec la commune pour défendre les projets d'amélioration de l'habitat. Donc on arrive à faire comprendre aux habitants que ça va prendre un peu de temps. Enfin, on a les élus là sur une copropriété d'envergure de 200 logements de la ville. Ils ont travaillé pendant 10-15 ans sur avant que la copropriété soit réhabilitée. C'est un travail de longue haleine avec une mobilisation des services, des élus qui ont dû faire du porte-à-porte pour mobiliser les habitants. Enfin, c'est un vrai engagement.
On évoquait aussi tout à l'heure l'importance des équipes locales, justement, de travailler en équipe. C'est quelque chose qui est important aussi pour vous de travailler dans une... D'abord, d'instaurer un climat vraiment de confiance dans l'équipe locale dans laquelle vous travaillez. Et puis peut-être, justement, aussi ce climat de confiance avec les citoyens.
Oui, c'est indispensable. On travaille à la fois sur du projet urbain et sur aussi des projets d'amélioration de l'habitat. Donc les projets sont articulés, les différents services qui s'occupent de ces projets travaillent en transversalité. Ce sont des projets partenariaux, c'est de la gestion de projets extrêmement complexe. Donc on s'appuie aussi sur des compétences d'architectes, d'urbanistes, on s'appuie sur l'État, sur des opérateurs qui nous accompagnent. Donc c'est des projets qui ne peuvent pas se faire tout seuls. Et évidemment, on s'appuie sur les habitants et c'est sur eux qu'on s'appuie en premier pour mener ces projets.
Alors peut-être dernière question avant de vous laisser retourner peut-être à votre combat. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, vous, personnellement, voilà, au départ? Je ne sais pas si ça fait plusieurs années ou plusieurs mois. Quel a été le déclic pour vous?
C'est un peu la fibre familiale sur la question du logement. Mes parents, quand ils étaient jeunes, se sont engagés à la CGL, à la Confédération Générale du Logement. Et puis c'est quelque chose, ma mère est aussi élue aujourd'hui au logement sur ces questions. Mon père était aussi engagé sur la question du logement dans une association, Habitat et Humanisme. Voilà, c'est familial, c'est une fibre qui m'a été transmise. Et je trouve que c'est un sujet passionnant parce qu'on est dans la vie du quotidien des gens pour les accompagner. Et puis il y a des éléments un peu plus stratégiques aussi qui sont tout à fait intéressants.
Merci beaucoup, Victor Pécheux, directeur du renouvellement urbain, habitat et logement à Villiers-le-Bel. Et on pourra retrouver le détail de votre engagement dans le prochain numéro du Pèlerin. Voilà, il y aura une belle double page. Merci.
Au revoir.
Grand Angle, RCF.
Alors Pierre Wolf Mandrou et François-Xavier Maigre, donc de la rédaction de Pèlerin, quand vous entendez ce genre de témoignage, en tout cas d'engagement d'un élu local, la Villiers-le-Bel, qui était une des villes donc que vous aviez choisie dans votre série de reportages dans la série développée par le Pèlerin, on voit que ça rebondit quand même. Il y a des choses qui rebondissent quand il parle de la transmission, c'est très touchant.
Ce que j'ai trouvé saisissant, c'est la façon dont ça faisait écho à la discussion qu'on a eue juste avant, c'est-à-dire de voir comment chez cet homme se nourrissent un grand professionnalisme et en même temps important, une histoire personnelle, une fibre qui est voilà héritière de, d'une tradition familiale. Et c'est ce qu'on constate souvent dans les reportages qu'on publie, et nos journalistes le voient sur le terrain. Les maires, c'est pas seulement des grands professionnels de la vie locale. Ce sont des gens qui sont animés par des convictions, par un sens de l'autre. Et c'est quelque chose qui perle de façon manifeste, je trouve, dans cette grande période avant les municipales. On voit qu'il y a énormément de passion en dépit de toutes les fatigues, de toutes les usures dont on a pu parler avant, qui sont liées à l'évolution, voilà, des intercommunalités, aux baisses de dotations, aux incivilités. Malgré tout, j'ai le sentiment quand même que la passion de l'engagement au niveau local l'emporte, et qu'on est face à voilà un scrutin qui va être passionnant, parce qu'il y a énormément d'enjeux locaux. On n'en a pas beaucoup parlé, mais nous on va y consacrer deux numéros. Il y a toute une nouvelle question que n'ont pas connue la génération de nos parents, qui est celle des pesticides, des perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, les élus locaux, on l'a constaté, deviennent aussi des interlocuteurs privilégiés de leurs concitoyens sur la question de l'environnement,
ouais,
sur
de l'impact, la santé,
voilà, exactement, l'impact de l'agriculture, de certaines agricultures sur la santé, d'usines. Il y a eu des décisions de justice, de plus en plus d'élus parfois voilà vraiment n'hésitent pas à monter au front pour défendre leurs concitoyens, et ça c'est très intéressant. Il y a voilà on a vraiment l'impression que l'élu local n'a pas dit son dernier mot dans la vie des Français.
Alors vous faites une belle transition, parce que quand vous parlez de passion, il y a cette passion là, il nous disait Victor Pécheux à Villiers-le-Bel de se rendre utile, mais cette passion, et on n'en a pas encore parlé, c'est le mot que je n'ai pas lâché, c'est aussi la colère peut-être des maires. Et j'ai l'impression que parfois, des maires peuvent être en colère, mais parce qu'il y a derrière un engagement passionné, en fait. Pierre Wolf, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, tout à fait. Alors après, il y a une colère, mais je pense que c'est aussi une conviction qu'on n'obtiendra pas les choses immédiatement. Moi, ce que je trouvais intéressant, ce que disait Victor Pécheux, c'est qu'il disait que ses propres parents étaient engagés sur le même combat que lui, sur le mal-logement. C'est-à-dire que ça traverse des décennies, c'est des décennies de combat. Alors oui, de la colère, mais la colère, il y a un côté peut-être un peu...
un peu négatif.
Un sentiment un peu passager qui finit par passer. Je pense que c'est encore plus profond que ça, parce que la colère, ça les motiverait pour quelques mois, mais c'est plus le sentiment encore d'être utile. La colère, oui, forcément. Et d'ailleurs, on l'a bien vu avec la crise des Gilets jaunes. Enfin, ça a provoqué une poussée d'un seul coup de citoyens qui sont allés dans les rues, des citoyens qui se voyaient jamais, qui ont commencé à s'engager politiquement alors qu'ils n'ont jamais été politisés avant. Donc la colère peut provoquer ça. Après, on a bien vu aussi que derrière, c'était beaucoup plus compliqué pour les Gilets jaunes de constituer des mouvements durables. Pour les municipales, il n'y a pas énormément de listes, on va dire, estampillées Gilets jaunes. Donc la colère, c'est bien, ça peut pas suffire. Je pense que ça peut absolument pas suffire.
François-Xavier Maigre, la colère, vous l'entendez comment ?
Pour rebondir sur ce qu'expliquait Pierre, moi j'ai été très intéressé pendant au plus fort de la crise des Gilets jaunes. Les maires précisément ont permis de catalyser et de canaliser même cette colère en retissant le lien qui était en train de se rompre entre les concitoyens, enfin entre les Français et leurs élus.
Les maires sont peut-être les maillons qui vont permettre de recréer le lien social, et comme on a, parce qu'on va pas terminer sur la colère, mais en tout cas ce qui émerge de vos reportages de terrain, c'est cette passion et ce besoin d'être utile. Alors vous pouvez retrouver donc dans les 9 prochains numéros de Pèlerin, puisqu'il y en a un qui vient de sortir. Donc la suite de la série autour des élections municipales. Et puis je vous rappelle aussi que nous avons une série d'émissions consacrées aussi aux élections municipales que vous retrouverez sur RCF. Merci beaucoup François-Xavier Maigre, Pierre-Wolf Mandrou, et vous retrouverez le podcast de cette émission sur notre site rcf.fr.